Où en est-on à propos de l'emploi des personnes en situation de handicap dans notre région? C'est la question que vous posez à votre invitée ce matin, Isabelle Duché.
Du 18 au 24 novembre se tient la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ce sera aussi le 21 novembre le Duo Day, au cours duquel une personne en situation de handicap est invitée à composer, le temps d'une journée, un duo avec un professionnel pour découvrir son poste, ses missions et son environnement de travail. Et nous parlons de tout cela avec Marc de Dumas. Bonjour messieurs.
Bonjour madame.
Vous êtes directeur Occitanie du FIPF, on va le détailler, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui est un acteur essentiel de la politique handicap dans la fonction publique. Merci de votre présence ce matin.
Je vous en prie.
Alors, ce FIPF, je ne sais pas si on le dit comme ça, est à l'origine du Duo Day. Il avait pour nom une personne, un métier, c'était vous qui avez eu cette idée. Quel est aujourd'hui l'objectif de ce Duo Day?
Alors, vous l'avez un petit peu dit dans votre propos introductif, le Duo Day, c'est en soi la possibilité proposée, donnée à des personnes en situation de handicap, qu'elles soient demandeurs d'emploi, qu'elles soient en formation, étudiantes, de venir découvrir chez un employeur, que cet employeur soit public ou privé, un métier. Et pour cela, donc, ils vont constituer un duo avec un professionnel le temps d'une journée pour vraiment découvrir un environnement professionnel et favoriser l'insertion de cette personne, lui créer, lui donner donc des nouvelles opportunités professionnelles. Et ce Duo Day existe depuis 7 ans, puisque enfin, cette année, ça sera la 7e édition qui aura lieu cette semaine, donc le 21 novembre. Et cette action s'inscrit, donc, vous l'avez dit, donc, au cours de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, le FIPF est un acteur de ce dispositif. Il n'en est pas la cheville ouvrière ou à l'origine. Vous avez parlé d'une action qui s'appelle « Un jour, un métier ». Et cette action « Un jour, un métier » a été initiée, me semble-t-il, par l'AGFIP il y a quelques années. Et Duo Day est une initiative peut-être européenne. En tout cas, voilà, on a européanisé ce projet, ce dispositif, pour le généraliser. Et c'est une excellente chose.
Oui, voilà. Parce qu'en Occitanie, il y en a quand même eu l'année dernière 2398 duos.
Tout à fait. Donc, moi, j'avais le chiffre de 2400, mais c'est le même chiffre.
On n'est pas loin.
Vous avez raison. Et ben, 2400, c'est énorme. Et cela auprès de 1200 employeurs. Alors, ce qu'il faut également voir ou savoir, c'est que sur ces 1200 employeurs, un tiers constituent donc des employeurs publics. Voilà. De même que donc, ces duos, un tiers ont été faits auprès d'employeurs publics.
Quels sont les avantages pour ces employeurs, qu'ils soient publics ou privés?
Bah écoutez, il est multiple. C'est permettre donc, de faire découvrir un métier donc, pour lequel il peut y avoir donc, une forme d'appréhension ou une découverte totale. Pour l'employeur public, Je fais peut-être un distinguo. Il faut peut-être revenir un petit peu en arrière pour bien distinguer voilà, le FIP et l'AGFIP. Le FIP intervient donc auprès d'un public et d'employeurs publics et l'AGFIP auprès d'employeurs privés. Peut-être qu'on va y revenir dans quelques instants.
Oui, tout à fait.
Donc pour le FIP, ben c'est, pour le FIP et pour les employeurs publics, c'est de faire découvrir des métiers tout simplement et de recruter des personnes qui auraient envie de venir travailler dans l'environnement public.
Est-ce que vous voyez que ça change le regard, ce genre de journée?
Certainement.
Oui.
Certainement.
Oui. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi une découverte.
Tout à fait.
Oui. D'accord. Alors justement, nous allons parler de ce FIP, puisque vous l'appelez effectivement comme ça. La fonction publique comme le privé est soumise à l'obligation d'employer 6% de personnes en situation de handicap. En cas de non-respect de cette obligation, une contribution est due et c'est justement le FIP qui la collecte. Qu'en fait-il ensuite, Marc de Dumas?
Alors, le FIP, avec cette ressource qui lui est donnée, qui lui est confiée par cette disposition de la loi, est ensuite utilisée, elle est donc collectée et surtout redistribuée pour financer des politiques handicap auprès d'employeurs publics. L'objectif du FIP, il est multiple, mais il vise en soi à impulser donc une dynamique et inciter les employeurs publics à agir en favorisant donc le recrutement, l'accompagnement et le maintien dans l'emploi. Et cela dans les trois fonctions publiques. Alors, les trois fonctions publiques, pour vous, surtout peut-être pour vos auditeurs, il faut voir que dans la fonction publique, il y a trois pans, qu'on appelle la fonction publique territoriale, donc les communes, les départements, les régions, la fonction publique hospitalière et la fonction publique d'État. Et donc ces trois pans, ces employeurs publics ont cette obligation effectivement désormais donc de respecter ou d'aller vers ces 6% d'emploi de personnes en situation de handicap. Et les employeurs publics ou privés donc, qui n'y sont pas versent une contribution. Cette contribution, elle est versée dans le secteur privé auprès d'une association qui s'appelle l'AGFIP et auprès du public, d'un établissement public qui s'appelle le FIP et qui réemploie la totalité de ces sommes pour financer donc des politiques handicap, pour aider, accompagner des employeurs, des personnes en situation de handicap à aller vers l'emploi ou à être maintenus ou rester dans l'emploi. Mmh. Et pour cela, il y a un ensemble de dispositifs financiers ou de partenariats qui aident, incitent des employeurs à mettre en œuvre des politiques handicap d'inclusion.
Alors, si on peut prendre un exemple d'une aide directe qui pourrait être apportée par le FIP pour cet emploi ou cette...
Alors, on va prendre peut-être deux, trois exemples, si vous voulez. Mm-hmm. Comme ça, ça va illustrer des choses très simples. Nombreuses sont les personnes qui ont donc des difficultés d'entendre, donc un handicap auditif, et pour lequel elles doivent se doter donc de prothèses auditives. Et au-delà d'un certain seuil de handicap auditif, la prothèse donc est prise en charge avec une quote-part donc de par la sécurité sociale et mutuelle, et le FIP donc va venir aider l'employeur à prendre en charge donc ou à cofinancer
le restant
à charge. Mmh. Tout à fait. Alors je fais juste un petit aparté pour dire que les aides du FIP ne sont jamais versées directement à la personne en situation de handicap, mais cela transite toujours par l'employeur.
D'accord.
Peut-être un petit peu la différence de la GFIP qui, pour certaines aides, peuvent être versées directement à la personne en situation de handicap. Deuxième exemple, si vous voulez, c'est l'apprentissage. Hein. L'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap via l'apprentissage constitue pour nous, FIP, donc une priorité. Et pour cela, donc, il y a de nombreuses aides qui sont proposées aux employeurs pour vraiment les inciter, les pousser à recourir à l'apprentissage avec l'idée que au terme de cette période, la personne en apprentissage sera peut-être embauchée par l'employeur public.
C'est un bon tremplin.
Alors, donc ce volet apprentissage, c'est vraiment un des axes prioritaires du FIP. Et deux, trois chiffres peut-être, vraiment pour illustrer et pas non plus polluer peut-être cet entretien avec trop de chiffres. La rémunération de l'apprenti est prise en charge à 80% par le FIP, donc reste à la charge de l'employeur 20%. Et de même que ce recours à l'apprentissage entraîne donc des frais de formation, frais d'inscription. Cela peut être pris en charge par le FIP à hauteur de 10 000 euros par an, cela pendant 3 ans, ou de même qu'il y a des coûts d'aménagement qui sont nécessaires pour la personne qui est en situation de handicap dans son emploi. Et cela, que ce soit chez l'employeur ou dans le centre d'apprentissage, le CFA, le FIP donc va intervenir à hauteur, va intervenir à hauteur donc d'un plafond qui est un plafond de 10 000 euros. Simplement sur la partie qui est le surcoût d'aménagement de l'environnement de travail, donc tout ce qui va au-delà de l'obligation donc de l'employeur.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle la compensation. Il y a des dépenses, des coûts qui sont à la charge de l'employeur. Il y a des choses qui vont au-delà, qui sont nécessaires pour l'accueil de la personne, ce qu'on appelle vraiment la compensation. Et le FIP va intervenir sur cette partie-là.
Sur cette partie complémentaire, oui.
Voilà, ou d'autres exemples d'aide, si vous voulez. Ça revient un petit peu à ce que je venais de vous dire. Mm-hmm. C'est chez un employeur, lorsque c'est nécessaire, donc, d'accompagner en faisant des études ergonomiques. Et surtout d'aider ensuite à l'adaptation du poste de travail, comme pour l'apprenti, c'est la même chose. Sur le lieu du travail ou dans son lieu de formation.
Et on voit bien que toute cette action est absolument indispensable puisque le dernier sondage qui vient de la dernière enquête qui a été faite, enquête IFOP sur l'égalité des chances en emploi pour les personnes en situation de handicap, indique que Durant les quatre dernières années, le taux de chômage des personnes en situation de handicap a diminué, passant de 18 à 12%, mais il demeure quand même deux fois plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Donc, il y a encore du travail.
Largement.
Il y a encore du travail. Alors, 20 ans après l'entrée en vigueur de cette fameuse loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, cette loi fixe le principe d'une accessibilité généralisée. Elle intègre tous les handicaps, qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif ou mental. Est-ce que, Marc de Dumas, la situation s'est améliorée en matière d'accompagnement au travail?
Alors, j'aurais envie de vous dire oui, mais on peut voir la chose, enfin le verre à moitié plein ou à moitié vide. Voyons-le de façon à moitié pleine. Oui, les choses se sont améliorées. Dans la fonction publique, le taux d'emploi donc, a sensiblement augmenté pour les personnes en situation de handicap, puisque je n'ai pas tous les taux, mais voilà, le taux désormais donc, vient tangenter les 6%. Après, il faut panacher en fonction donc, des fonctions publiques. Donc, le taux vient tangenter désormais les 6%. La fonction publique territoriale donc, est désormais au-delà des 6%. Chaque employeur, qu'il soit donc, de petite taille ou plus important, petite commune, EHPAD, école d'ingénieurs, ministère, etc. Donc, font tous des efforts, chacun avec leurs propres contraintes. Donc là, je jette la pierre à personne, mais les choses s'améliorent.
D'accord. Oui. Est-ce qu'il y aurait des avancées significatives qui pourraient être nommées pour fluidifier les parcours et les carrières?
Alors, j'ai peut-être envie de mettre l'accent peut-être sur des actions qui sont menées, peut-être par le FIP. Mmh. Alors, par exemple, pour fluidifier les carrières, le FIP, dans ses actions, en tous les cas, cherche à professionnaliser donc, les employeurs et l'ensemble des acteurs. Et cela à travers un dispositif qui s'appelle le Handipact et qui nous permet de proposer à tout un public, donc de responsables ressources humaines, de référents handicap, de médecins du travail, d'infirmiers du travail, donc des actions collectives que nous organisons à peu près deux fois par mois pour vraiment proposer à tous ces professionnels de les enrichir en tous les cas d'expérience les uns les autres à travers donc un réseau que nous animons qu'on appelle le Handipact Occitanie. Il en existe dans chaque région et cela permet donc de dépasser les frontières de chaque fonction publique, de chaque employeur et de consolider sur les expériences de chacun pour les bonnes pratiques. Voilà, ça c'est un exemple. Donc c'est le Handipact et ça nous permet vraiment de faire vivre tout un réseau et de l'enrichir à travers donc, des manifestations, de l'enrichir à travers des publications que nous sommes arrivés à produire pour donner à ces professionnels du handicap donc des outils pour mieux accueillir, mieux insérer, mieux maintenir des personnes en situation de handicap. Alors, en Occitanie, peut-être deux, trois exemples. Nous avons, alors c'est peut-être un petit peu technique, mais nous avons pu produire des publications sur le thème de ce qu'on appelle la PPR, c'est un peu jargon, mais c'est la période préparatoire au reclassement, donc qui est une procédure qui permet d'accompagner une personne qui était en arrêt de travail, donc de l'aider à retrouver son travail ou de la réinsérer à travers donc, ce dispositif. Où on a également publié cette année un guide pratique sur la retraite des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Ce guide n'existait pas et c'est voilà, une première en région Occitanie et qui est vraiment un outil que nous mettons, qui est désormais à disposition des employeurs et de toute personne qui en a besoin, donc en le téléchargeant. Voilà, peut-être un exemple, quelques exemples pour illustrer ce que l'on peut faire pour aider, accompagner toujours les employeurs.
de la fonction publique, oui. Voilà, pour l'emploi des personnes handicapées. Merci beaucoup, Marc de Dumas, directeur Occitanie du FIP, le Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, qui est un acteur essentiel, nous l'avons dit, de la politique handicap dans cette fonction publique. Bonne journée.
Merci.